Il y a, est-ce que ça fait partie de la célébration aussi, le jeûne? Quand vous entendez jeûne, à quoi vous référez? Oui, Claude. Restriction, abstinence, avoir faim, étourdissement. Pourquoi les gens jeûnent-ils? Pourquoi les gens jeûnent? Hein? Pardon? OK. Alors, il y a des gens qui jeûnent pour des raisons de santé. Il y en a qui veulent contrôler leur poids, d'autres nettoyer leur système immunitaire, d'autres, faut être à jeun avant d'aller à l'hôpital pour prendre une prise de sang. Alors, ils ont oublié de jeûner là, 24 heures des fois. Il y en a que c'est pour des raisons de santé. D'autres... Pourquoi est-ce que les gens jeûnent? Oui, Claude. OK, jeûner pour se dédier. Tu parles de façon religieuse de cette manière-là ou alors évidemment, il y a les croyants jeûnent pour des raisons religieuses. Puis certainement qu'on va aborder ça ce soir. Il y a des gens qui jeûnent pour des raisons de dépendance. Ça se peut-tu, ça? Des gens qui jeûnent, ils sont dépendants de l'alcool, par exemple. Puis on leur demande de jeûner, de être sevrés. C'est une forme de jeûne, ça? En tout cas, ça fait mal. C'est dur. Des gens s'arrachent les cheveux avec ça. Un jeûne de surconsommation aussi, de toutes sortes d'affaires. Comme je dis, ça peut être de troubles psychologiques aussi, des jeûnes de drogue, d'alcool, de tabac. Des gens jeûnent par perte d'appétit carrément. Ils jeûnent par anorexie. Par dépression, par anxiété. Il y en a que c'est l'inverse, ils vont manger plus, 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 mais il y en a d'autres qui vont jeûner pour des raisons de dépendance, pour des raisons de troubles psychologiques. Des fois, on parle de jeûne dans notre société de surconsommation. Les gens devraient jeûner de TV. Ça serait-tu une bonne chose, ça? C'est-tu à considérer, ce jeûne-là? Jeûner d'Internet, j'écoutais récemment avec mon épouse monsieur qui est grande tête sur le cancer, là, puis il écrit les aliments contre le cancer, je sais pas, monsieur docteur Beaulieu. Béliveau, c'est ça, Béliveau. Puis il dit toutes American food là, le gras, le sucre, puis le sel là. Il dit tout concentré dans nos bois, dans nos cannes de pop, de liqueur et nos frites. Il dit faut jeûner, faut casser. Alors il y a des gens qui jeûnent pour des raisons de santé, de dépendance. Mais les croyants, il y a des croyants. Et j'aimerais dire que j'en fais partie, puis en même temps, je fais pas ça souvent. Des croyants qui jeûnent pour des raisons de foi. Je vais appeler ça le jeûne religieux. Il peut être similaire aux autres jeûnes dans la forme, mais la motivation pour le jeûne chez le croyant est différente. Quelle est la motivation essentielle? Du jeûne pour le croyant. Perdre du poids? Quelle est sa motivation quand il jeûne? Claude, tu nous avais mentionné un élément. Tu parlais de... OK. Concentration, dédiée à quelque chose. Focalisation, si je peux dire. Oui, Rénal? OK. OK. Alors, un jeûne, c'est pas prier après le repas parce qu'on dort, là. Alors, un jeûne, ça peut nous permettre d'être un peu plus éveillés, en tout cas, à nous. J'aimerais qu'on regarde un peu en réalité, le jeûne du chrétien a tout à faire avec sa relation avec Dieu. Un moyen physique, mais la motivation a à faire avec sa relation avec Dieu. J'aimerais qu'on fasse un survol rapide encore toujours de la Bible à ce sujet du jeûne. Dans l'Ancienne Alliance, est-ce qu'il y avait le jeûne? Oh, prions d'abord. Ah, Seigneur, on va ouvrir ta parole, puis dans ce thème qu'on aborde très peu souvent du jeûne. Oh, je voudrais te prier encore, Seigneur, ce soir, que tu nous diriges selon tes pensées, afin qu'on agisse avec la bonne motivation quand on prend la décision de jeûner. Alors, Seigneur, dirige-nous dans ta parole. Et je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament, est-ce que c'était dans la loi de jeûner? Est-ce que le jeûne, ça fait partie de l'Ancien Testament? Oui. Vous pouvez dire où, quand, comment? Dans l'Ancien Testament, il y a une journée par année où Dieu demandait le jeûne. Et même, il n'employait pas le mot jeûne. C'était le jour des expiations. Lévitique, chapitre 16, les versets 29 à 31. Et j'aurais besoin de lecteurs ce soir en même temps. Mais il y avait un jour par année où il y avait un jeûne obligatoire. Et on n'emploie pas l'expression « jeûne ». Mais entre le lever du soleil jusqu'à son couchant, on pouvait boire, mais on ne pouvait pas manger, on ne devait pas manger, un peu comme les musulmans le font encore aujourd'hui, dans le mois du Ramadan, là. Du matin au soir, ils peuvent boire des liquides, de l'eau, mais ils ne mangent qu'après le coucher du soleil. Le jour des expiations dans l'Ancien Testament, c'est un jour de jeûne comme ça. On emploie un autre mot. Alors, quelqu'un pourrait lire Lévitique 16, des versets 29 à 31, et vous allez découvrir de quel mot il parlait. Oui, Serge. OK. Cette loi perpétuelle de humilier son âme. Le mot jeûne apparaît-tu? Non. Qu'est-ce qui ressemble à ça? Ouais, non, on n'expire rien en jeûnant. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Aucun ouvrage, ça ressemble au repos, ça ressemble au sabbat. Humilier son âme. Cette expression de humilier son âme, de arriver devant Dieu dans l'humilité, parlait du jeûne. Avec le temps, on a changé cette expression-là, puis on a employé le mot jeûne. Le jeûne est l'expression de l'humiliation de l'âme devant Dieu. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 58, parce que je ne vous ai pas convaincu avec Lévitique, avec humilier mon âme, c'est, elle veut dire jeûne, là. Ésaïe 58, avec le temps. Avec le temps, on a identifié cette notion, cette journée-là comme ça. Ésaïe 58, j'aimerais lire les 5 premiers versets. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, parallèle, de mortifier notre âme, si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, il y en a un jour, là. Le jour de votre jeûne, Dieu dit, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Quel était ce jour agréable à l'Éternel? Et qui parlait? Ce jour, un jour de jeûne? Hein? Est-ce que tu nous vois, Seigneur, quand un jeûne est... Et comment il le décrit, ce jeûne-là, ce jour de jeûne? Un jour agréable à l'Éternel, un jour où l'on humilie son âme, cette notion de jeûne, un jour où on s'assoit sur le sac et la cendre, une autre image physique de cette humiliation de l'âme. On se couche, c'est ça? On courbe la tête, on mortifie son âme, toutes de ces notions-là. Puis, alors, c'est ça, Dieu dit, tu fais ça, puis là, dans la même journée que tu jeûnes, tu te bats avec le monde. C'est-tu vraiment ça, là, le jeûne? Un jour où tu t'écrases, où tu humilies ton âme. Pas un jour où tu écrases les autres, puis tu montres que tu es plus fort que les autres, puis que tu écrases les autres. Un jour de jeûne. Et avec dans l'Ancien Testament, c'est devenu toujours le jour du jeûne. Actes chapitre 27, verset 9. Paul circule et il dit, et là c'est devenu officiel. Là, le moment du jeûne était passé parce que c'était le dixième jour du septième mois. Ça veut dire vers le début d'octobre. Et dans la Méditerranée, rendu à cette période-là, on arrive à l'hiver, puis la navigation, elle est difficile. Alors, Paul, il dit, le jour de jeûne était déjà passé, puis c'était pas le temps d'aller en bateau, là. C'était dans son voyage où il s'est ramassé à Rome, là, puis qui a échoué. Il l'appelle tout simplement le jour du jeûne. Le jour du jeûne officiel qui était déclaré dans l'Ancienne Alliance. Tournez dans Daniel, chapitre 9. Le jeûne est l'expression de l'humiliation de notre âme devant Dieu. Par la loi, il y en avait un jour par année, le jour des expiations. Vous vous rappelez le jour des expiations, hein? C'était quoi ce jour-là? Le jour des expiations? On jeûnait, oui, mais c'était quoi l'objectif, hein? Alors, c'était toute la notion d'expiation de nos péchés, de culpabilité, de se présenter devant Dieu avec le cœur contrit, avec la pénitence, pas pénitence, mortification, mais pénitence dans le sens d'être pénitent, être triste de nos manquements, être triste de nos péchés, et on arrive au jour où le sacrifice va payer à notre place, le jour des expiations. C'est un jour où on jeûnait pour manifester l'humiliation de notre âme. Regardez ce que Daniel faisait. C'était pas juste ce jour-là, mais comme je dis, par la loi, il y en avait un officiel, mais... Les hommes de Dieu jeûnaient aussi. Daniel, chapitre 9, vous vous rappelez de cette histoire-là? Daniel 9, 3, quelqu'un peut le lire. Daniel. 3, 6. OK. Quelle est l'atmosphère autour du jeûne? Dans ce texte-là, Daniel, comment est son âme, si je peux dire, autour de l'humiliation, repentance, confession, hein, intercession, mais ça va être plus tard, mais dans le jeûne, il y a cette confession de ses péchés. On n'en voit pas gros de ses péchés, mais confesse les siens, puis ceux du peuple. il parle encore de la notion du sac et de la cendre, jeûne associé à l'humiliation de son âme. La notion de, comme je dis, de s'examiner, de confesser son péché, d'humilier son âme, d'être pénitent dans le sac et la cendre. On pourrait tourner à 1 Samuel, chapitre 7, des versets 2 à 6, on verrait cette notion-là. Un jour de confession, un jour d'être pénitent, de pénitence, si je peux employer. J'espère que je ne vous frustre pas en employant ce mot-là. C'est un bon mot d'être pénitent. C'est juste que nous, on a la notion d'acheter le pardon de Dieu en marchant à genoux sur des marches. Ce n'est pas cette notion-là. Mais on a oublié cette notion-là d'être triste devant Dieu, d'être humilié dans notre âme, de confesser notre péché. Dans l'Ancien Testament, alors, il y a d'autres moments aussi où les enfants d'Israël jeûnaient, sans que ce soit la loi. Par exemple, psaume 35, 13, devant la maladie, David dit « Je jeûnais quand j'avais un ami qui était malade. » On jeûnait, c'est l'occasion de supplier Dieu dans le danger. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, le jeûne vient quand on veut crier à Dieu en période de danger. Un ami de David était pour mourir, il jeûnait pour supplier Dieu d'intervenir. Vous vous souvenez d'un autre moment où David a jeûné? Son fils avec Bathsheba, hein? Il a jeûné et après, quand il est décédé, il avait plus besoin de jeûner. Mais à danger devant la maladie. D'autres moments où d'autres dangers que les enfants d'Israël avaient, pour lesquels ils jeûnaient. Ouais, mais dans le livre d'Esther, c'est un exemple où Esther, elle va se présenter devant Assuérus, Esther chapitre 4, et là, la nation est en crainte d'être balayée complètement par Mardochée puis les Perses qui sont là. Elle va jeûner, elle va demander à Mardochée de jeûner, elle va demander aux Juifs de jeûner, parce qu'elle va aller se présenter devant Assuérus pour demander grâce pour son peuple. Le danger d'extinction par les autorités, souvent, oui? Et eux aussi, ils ont jeûné. Est-ce que ce mot-là apparaît? J'ai cherché partout les mots jeûner cette semaine. C'est drôle, il est pas. Il parle du sac et de la cendre, par exemple. Mais ils se sont repentis. Ben peut-être, là, peut-être, il y avait le sac et la cendre. Il y a le mot jeûner aussi. Alors, les Ninivites jeûnaient. Ils publièrent l'humiliation de leur âme. Je regardais aussi devant la guerre. Josaphat, par exemple, 2 Chroniques, chapitre 20. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites venaient. Puis Josaphat a publié un jeûne devant le danger. Le jeûne, c'est l'occasion de supplier Dieu dans le danger. Ça, c'est un peu des références que l'on a dans l'Ancien Testament. Pourquoi je jeûne? Je supplie son intervention dans le danger ou je m'humilie devant Dieu pour ma condition pécheresse, pour mes péchés. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament au sujet du jeûne? Le jeûne et les chrétiens. Jésus, est-ce qu'il a enseigné sur le jeûne? Jésus a-t-il jeûné d'abord? OK. Vous pensez quand est-ce que Jésus a jeûné? 40 jours et 40 nuits dans le désert, juste à l'introduction de son ministère public. Il a cherché la face de son père pendant 40 jours. Et je dis à l'introduction, c'était tout de suite après le baptême. Et il y avait une lutte avec l'adversaire. Mais il nous est dit qu'il était 40 jours à jeûner. On n'a pas d'autre référence après de Jésus qui jeûne. Mais il a commencé son ministère avec le jeûne. Est-ce qu'il a enseigné sur le jeûne? Et les anges sont venus le servir. C'est ça, Dieu a pris soin de sa dimension physique aussi. Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'on trouve? Matthieu 5, 6, 7? Sermon sur la montagne. Chapitre 6, Jésus, il prend en exemple le jeûne au chapitre 6 et verset 16 à 18. Il met en garde, dans ce cas-ci, au sujet du jeûne. Quand vous faites l'aumône, quand vous priez, quand vous jeûnez, assurez-vous que vous ne faites pas ça pour être vu des hommes. Parce que le jeûne, la prière, les aumônes, c'est pour se présenter où finalement? Devant Dieu. Si tu jeûnes, parfume ton corps, n'aie pas l'air misérable parce que tu jeûnes. Parce qu'à ce moment-là, oui, les gens vont le voir et vont dire « Oh, qu'il est pieux! » Mais Dieu n'aura pas entendu. Puis ça t'aura jeûné à peu près pour rien, pour dire. En tout cas, tu ne seras pas entendu du ciel. Il a mis en garde les disciples de pratiquer extérieurement leurs actes de piété pour être vus des hommes. Et à un moment donné, il y a un autre élément dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 14 et 15. Là, il reçoit la visite de disciples de Jean-Baptiste et de pharisiens qui disent à Jésus, « Comment ça se fait donc que tes disciples ne jeûnent pas eux autres? » Jésus avait oublié, Jésus avait omis de leur imposer un jeûne hebdomadaire ou mensuel, je ne sais pas, puis les gens avaient remarqué ça. Il y avait des pharisiens. Dans Luc, il nous parle, il y a des pharisiens. Dans Matthieu, il nous donne juste les disciples de Jean. Mais il dit, comment ça se fait que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous autres, on jeûne? C'est quoi l'argument de Jésus? Oui, Pauline? OK. Puis, oui, et comment il se décrit pendant que je suis avec eux? L'époux, pendant le temps que l'époux est là, c'est un temps de réjouissance, c'est pas un temps de jeûne. Quand viendra le moment où ils seront confrontés avec le danger, la tristesse, les moments précis, là, Jésus dit, ils jeûneront. Mais présentement, il dit, c'est pas le temps. Jésus n'a pas imposé de jeûne à ses disciples. En présence de l'époux, la joie plutôt que le jeûne se manifestait. Et Jésus dit, en temps opportun, ils vont jeûner. On voit ça dans les évangiles sur le jeûne. Après ça, on voit dans le livre des Actes. Juste vous dire, il n'y a aucune recommandation sur le jeûne dans toutes les épîtres du Nouveau Testament. Intéressant, là. Alors, il ne faut pas mettre ça trop haut non plus. Il n'y a aucune recommandation sur le jeûne dans toutes les épîtres du Nouveau Testament. On parle du jeûne encore dans le livre des Actes. Parce qu'il y a une personne qui va jeûner dans le livre des Actes. Plusieurs personnes vont jeûner dans le livre des Actes. Mais celui qu'on suit dans le livre des Actes, c'est Paul en particulier. Dans l'expérience de Paul, on voit que Paul jeûnait. Actes chapitre 13, je vais vous tourner là. Actes chapitre 13, les versets 1 à 3. Paul a l'habitude de jeûner. Il ne nous dit pas un peu combien de temps qu'il le fait, combien de temps ça dure, mais on voit que ça fait partie de ses habitudes. Quelqu'un peut lire les trois premiers versets de Acte 13. Oui, Richard. OK. Qu'est-ce qui arrive à cette église d'Antioche? Il y a des gens qui servent, des docteurs, puis pendant qu'ils servent, ils font aussi autre chose. Ils ont des longs jeûnes de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Et puis le Saint-Esprit leur parle. Mais dans cette circonstance-là, c'est dans leur habitude à l'église de, j'imagine, sauter des repas, puis jeûner. Puis pendant qu'ils sont en train de servir, puis qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit parle. Puis il dit quoi? mettez-moi à part Paul et Barnabas. La volonté de Dieu est exprimée. Puis qu'est-ce qu'ils font après ça? Après ça, ils ont jeûné encore. Ils ont jeûné et prié. Pourquoi est-ce qu'ils ont jeûné et prié par la suite? Ça faisait partie de leur ministère, prier, jeûner. C'est attaché, hein? Prier, jeûner, c'est attaché dans le Nouveau Testament. C'était pour les mettre à part, mais pourquoi ils ont jeûné après avoir décidé de les mettre à part? Des prières intenses qui veulent se concentrer. Moi, j'écris dans mes notes. Chercher la direction de Dieu. J'ai mis dans... Oui, Naomi? Oui. Moi, je pense, j'ai cru dans mes notes. Ils ont confirmé à travers le jeûne et la prière l'appel de Dieu, la direction de Dieu. Alors, on jeûnait aussi pour confirmer la volonté de Dieu là-dedans. Ils priaient pendant qu'ils servaient. Le Seigneur dit, mettez-moi à part. On est d'accord, on va aller dans la prière. On va se concentrer dans la prière. On va jeûner. Puis ça devait être le même jour. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas soupé ce soir-là. Puis l'assemblée s'est rassemblée pour prier intensément, pour ensemble avoir la paix de Dieu dans le cœur, pour dire, oui, c'est ça que Dieu veut. C'était quelque chose de nouveau, là. Qu'une église locale, païenne, je veux dire, en majorité de non-juifs, décide, après juste quelques années de formation, d'envoyer deux de leurs leaders principaux aller ailleurs, puis prêcher l'Évangile à des non-juifs encore. C'était toute une décision, là. Même là, le Concile de Jérusalem n'est pas arrivé encore. Il y a encore beaucoup de pression juif-païen, là. Alors, ils entendent le Saint-Esprit, ils sont sensibles à l'Esprit, et ils confirment la volonté de Dieu à travers la prière et le jeûne. Et même chose dans Actes chapitre 14, 23. Actes chapitre 14, 23. Quand ils implantent des églises. Ici, ils sont à Derbe. Et au verset 23, ils désignèrent des anciens dans chaque ville et après avoir prié et jeûner, ils les recommandèrent au Seigneur. Ils ont fait établir des anciens, ont fait voter des gens dans l'Église, puis après qu'ils ont fait voter, ils les recommandent au Seigneur, puis comment ils font ça? Ils prennent le temps de prier, puis de jeûner. Encore une fois, pour confirmer la volonté de Dieu pour eux. Après ça, il y a juste un autre endroit, dans 2 Corinthiens, en quelque part, où le mot « jeûne » apparaît, c'est Paul qui dit, vous avez pas suivi ma conduite, mais j'ai eu plusieurs choses, souvent dans la détresse, souvent ça, puis il dit par la multitude des jeûnes, il inclut aussi dans son style de vie. 2 Corinthiens, je l'ai pas écrit, j'avais dans mes notes, 2 Corinthiens, chapitre 7, et de mémoire. Et encore, comme je vous dis, est-ce que les chrétiens vivent avec l'obligation, la règle de jeûner certains jours ou certains moments dans l'année. Est-ce que vous avez ce devoir de jeûner? On n'a pas de devoir dans le Nouveau Testament de jeûner. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en ferait pas? On ne fera pas de jeûne? J'espère que non, on va en arriver peut-être à la fin aussi. Mais cette notion-là de « il faut jeûner », c'est pas enseigné, en tout cas dans toutes les lettres du Nouveau Testament. Et malheureusement, par exemple, dans le christianisme, dès le début du christianisme, il y a eu des déviations au sujet du jeûne. Le christianisme a grandi dans une culture grecque où la pensée était bonne et puis le corps était mauvais. Alors, c'était une chose très spirituelle que d'écraser le corps, que de « mange pas, goûte pas, touche pas, marie-toi pas », toutes sortes de choses sur le corps. Et on pensait que c'était plus spirituel. Tournez dans Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Paul s'adresse à cette notion-là qui a pris de l'ampleur par la suite, que l'on appelle le gnosticisme, qui a pris de l'ampleur par la suite. Colossiens 2, les versets 20 à 23. Quelqu'un pourrait lire? Oui, Danny. OK. Chez les gnostiques, il y avait cette notion-là que on doit être des ascètes, on doit être ascétique, de mortifier sa chair pour être plus spirituel. Et là, c'est devenu, je suis un meilleur chrétien si je fais certaines activités de jeûne. J'aimais ça ce matin avec Jacques. Est-ce que je suis plus spirituel si je lis ma Bible et si je prie? C'est-tu automatique? Est-ce que c'est bon de le faire? Évidemment, c'est pas juste bon, c'est nécessaire de le faire. Mais l'important, c'est avec le cœur, c'est la motivation derrière le fait de le faire. Si je dis, hey, je suis un chrétien, pas comme, je prêcherai pas ce que Jacques précise, mais je suis un chrétien, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie, il faut que je fasse la vaisselle quand ma femme est partie, puis que si c'est toujours le je dois, c'est malheureux. C'est pas l'essence du christianisme où je manifeste ma gratitude. J'ai soif de Dieu, je veux le connaître. Je vais passer du temps en prière avec lui. Je vais passer du temps à connaître sa parole parce que j'ai soif de lui. Je veux de lui, pas par des préceptes d'obligation. Et ça, dès le premier, les gnostiques du premier siècle, puis ça a continué au deuxième siècle, cette notion d'une forme de légalisme pour présenter le christianisme avec une certaine norme de sainteté extérieure. Le Didaché, c'est un livre très important dans l'Église primitive. À la fin du deuxième siècle, il n'a pas assez proche d'entrer dans le canon, là, parce que c'est un livre connu, puis on appelait ça la doctrine, le recueil des doctrines des apôtres. C'est ça qu'on appelait le Didaché. Mais là-dedans, ça demandait de jeûner deux fois par semaine, mais pas le lundi, puis pas le jeudi. Parce que le lundi et le jeudi, les Juifs jeûnaient, eux autres. Alors, pour être vraiment différent, le judaïsme du christianisme, on dit jeûner deux fois par semaine, mais pas le lundi ni le jeudi. Si on disait ça dans le Didaché au deuxième siècle. Et là, on a commencé à dire, une personne qui va être baptisée, quand Dieu donnait Emmanuel, dimanche prochain, il va être baptisé. Bien là, on disait, le baptisé et le baptiseur doivent jeûner avant d'être... C'est-tu mal, ça? Non? ça a-tu du bien? Y a-tu du bien là-dedans? Ça serait-tu important de se concentrer vers Dieu pour qu'est-ce qu'on va faire? Je vais confesser ma foi publiquement, puis je vais m'engager à vivre pour Dieu. Ça vaut-tu la peine de prendre du temps en solitude avec le Seigneur pour confirmer cet engagement-là devant lui? Bien, certain. Est-ce qu'on doit en faire une règle? Non. Mais le Didaché commençait à placer ces choses-là. Au cours des siècles suivants, on a utilisé le jeûne comme un catalyseur à la prière pour forcer en quelque sorte la main de Dieu. Là, on a commencé à dire, quand je jeûne, j'ai soudainement un levier puissant pour tordre le bras de Dieu. C'est-tu une bonne notion de prière, ça? Et malheureusement, dans le deuxième, troisième siècle, il y a même de ces étirements-là qui ont entré dans notre Nouveau Testament. Par exemple, Matthieu chapitre 17, 21, Marc 9, 29. Matthieu 17, 21, peut-être dans votre Bible, il y a peut-être des petits crochets autour, là. Les textes les plus anciens n'ont pas Matthieu 17, 21. Il y a Marc, c'est les disciples qui n'ont pas été capables de chasser un démon. C'est ça, dans les manuscrits les plus anciens, Matthieu 17, 21 n'est pas là. Mais c'est un étirement de Marc 9, 29. Mais dans cette histoire-là, vous savez, les disciples n'ont pas été capables de chasser le démon. Puis là, Jésus le chasse. Puis là, les disciples, ils disent, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de chasser? Puis Jésus aurait dit, dans Matthieu 12, 21, cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et le jeûne. Malheureusement, ce n'est pas dans les textes les plus anciens. Et c'était plutôt dans Marc chapitre 9, verset 29, qui dit, cette sorte-là sort par la prière. Les disciples, vous avez essayé de exorciser cette personne-là par votre puissance personnelle. Tu sais, fais ça, sors. Ça arrive encore aujourd'hui, là, des gens qui affrontent l'adversaire par leur propre bras et qui se font cogner dans le front. Et Jésus dit, non. Quel pouvoir est-ce que vous avez d'exorciser? Vous l'avez dans la prière. Et Dieu va intervenir. Et Marc 9, 29, c'est ça que ça dit. Cette sorte de démon sort par la prière. Point. Ben c'est ça. Alors, comme il dit, dans nos textes de Louis II, on n'a pas dans Marc chapitre 9, 29, la notion, mais il y a des textes plus récents qui ont inclus la notion de jeûne. Mais malheureusement, il y a beaucoup de textes anciens. Je parle là, de 4e, 5e siècle. Dans les papyrus qui sont avant le 5e... Allez, je suis en train d'entrer dans un autre domaine. Là. Dans les papyrus avant... Beaucoup des manuscrits anciens n'ont pas Matthieu 17, 21. Oui, Serge. Ça nous vire à l'envers. OK. Bien. Et là, c'est parce que... Mais c'est pour ça que si vous avez une Bible second revisée, par exemple, puis il est temps de parenthèse. Mais pourquoi? Il faudrait expliquer en très peu de temps dans le christianisme, au 16e siècle, un monsieur a ramassé des textes qu'il avait reçus, ce qu'on appelle le textus receptus en grec. Et beaucoup des traductions par la suite ont suivi ce textus receptus, ce texte reçu. Ce texte reçu au 16e siècle, quand le monsieur Elzéar, je ne sais pas trop, là, il a ramassé ça, il a ramassé des textes grecs qu'il y avait autour. Et dans ces textes grecs-là, il y en avait qui avaient Matthieu 17, 21. Alors lui, dans le texte reçu, alors là, c'est devenu par la suite de King James Version, puis même dans certains de nos milieux évangéliques, la version synodale, elle suit exactement. Et là, au 19e siècle, 20e siècle, avant ça, on a trouvé toutes sortes d'autres documents, des manuscrits plus anciens qui n'avaient pas cette partie, qui n'avaient pas ce verset-là, par exemple, dedans. Mais on a voulu fermer les yeux sur le fait qu'il y avait des textes anciens qui n'avaient pas certains. C'est très petit, là. C'est un dixième de 1% là, de variation dans le Nouveau Testament. Mais on a voulu fermer les yeux sur les découvertes d'anciens manuscrits. Et là, on a mis le poids de l'autorité de l'Église là-dessus. Puis là, on a dit, le texte reçu, c'est le texte inspiré. Et aujourd'hui, il y a des gens qui le défendent encore, là. Le King James, c'est le texte inspiré. Et ça, c'est basé sur le texte reçu. Maintenant, quand on croit à l'inspiration, et je résiste et tu résistes parce que je crois comme toi à l'inspiration des Écritures. Dieu a inspiré les Écritures. Est-ce qu'il a inspiré toutes les traductions par la suite, puis les copies par la suite? Non. Mais il a promis quelque chose, par exemple. Il a promis que sa parole serait préservée. Alors, on croit à l'inspiration des manuscrits originaux et on croit à la préservation des manuscrits, des écritures par la suite. Et merci Seigneur, depuis le 18e, 19e siècle, on est capable de faire un travail, je dirais, critique ou s'il a rentré d'un petit peu de sable un petit peu dans les écrits du Nouveau Testament, on est capable d'enlever les grains. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici, là, dans Matthieu 17, 21. Parce que ça semble enseigner que Dieu dit que si tu jeûnes, ça te donne une puissance supplémentaire pour confronter l'ennemi. Aucun enseignement là-dessus dans le Nouveau Testament. Et ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'on jeûne à cause de notre motivation intérieure de se placer, de humilier notre âme devant Dieu, d'invoquer son intervention dans le danger. Si on arrive à des croix de chemin dans notre vie, puis qu'on veut avoir la volonté de Dieu, on va jeûner, puis Dieu va confirmer sa volonté par la paix dans le cœur à travers la prière et le jeûne. Mais je ne me servirai pas du jeûne pour tordre le bras de Dieu. Je vais jeûner 2 semaines, puis Dieu va me donner sa réponse, puis je vais le faire parce que je jeûne. Ça, c'est pas enseigné dans le Nouveau Testament. Ça devient à ce moment-là un légalisme. J'essaie de tordre le bras de Dieu. C'était ça qu'il y avait, une autre main qui s'est levée, là? Mais je veux quand même te dire que c'était dans nos Bibles. C'était dans nos Bibles parce que beaucoup de manuscrits du 4e, 5e, 6e siècle l'avaient. C'est quand même âgé, là. Mais on a découvert des manuscrits plus anciens qui ne l'avaient pas. Bon. Alors, la pratique du jeûne aujourd'hui, on termine avec ça. Est-ce que le jeûne a-t-il sa place dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Certainement, mais il faut comprendre notre motivation en jeûnant. Le jeûne, il est lié à la prière, en ce qui nous prédispose à l'humilité devant Dieu, à la recherche de son intervention, à la recherche de sa direction dans des moments particuliers de nos vies, ou encore dans la confirmation de sa volonté dans les choix que je fais. Je peux jeûner et Dieu va amener la paix dans mon cœur dans les choix que je fais. Attention de ne pas servir de jeûne comme d'un levier de force pour obtenir davantage de Dieu ou pour acheter son approbation. Je vais faire quelque chose de plus ou moins catholique, mais je vais jeûner pendant 2 jours, puis là, ça va passer. Faisons attention à ça. On se soumet toujours à Dieu et le jeûne nous aide. Alors, terminons avec Ésaïe chapitre 58, les versets 6 à 9, la suite de tantôt, où Dieu nous parle de qu'est-ce qu'il aime dans le cœur. Le jeûne va nous prédisposer à sonder le cœur de Dieu pour être capable de le refléter par la suite. Et c'est pour ça que c'est bon le jeûne, de passer du temps dans la prière avec Dieu, en jeûnant au besoin. Puis on peut jeûner de bien des affaires, comme on a mentionné. On peut jeûner de nourriture, mais aujourd'hui, il y a bien d'autres formes de jeûne qu'on pourrait pratiquer, qui prennent beaucoup de temps dans notre vie, puis qui nous arrachent d'être à la recherche de la face de Dieu. Comme j'ai mentionné tantôt, TV ou d'autres choses qui peuvent nous prendre notre temps. On peut jeûner de bien d'autres choses que de la nourriture pour rechercher la face de Dieu puis être capable de mieux le refléter par la suite. Ésaïe 58, versets 6 à 9. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. » Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Ça, c'est le style de jeûne que Dieu veut, que je prenne plaisir à la miséricorde. Et après ça, quand je vais invoquer l'Éternel, l'Éternel va être proche. Il va intervenir. Ta justice marchera devant toi, ta guérison germera promptement, ta lumière va poindre contre l'aurore, puis alors tu vas appeler l'Éternel, puis l'Éternel va répondre, puis tu vas crier, puis c'est l'Éternel qui va dire, me voici, je viens pour t'aider. Le jeûne, un moyen d'être capable de rechercher la face de Dieu pour être capable de mieux le refléter. Un moyen à la disposition des croyants un moyen de prière. Attention, pas un moyen d'être plus saint devant Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour la joie de te connaître. Merci pour le privilège que l'on a de vivre pour toi. Donne-nous une telle soif de toi, une telle faim de toi, qu'on pourra passer par-dessus des repas et être rassasié de ta personne, de ton amour, de ta joie. Et Seigneur Dieu, avant toute chose, donne-nous qu'on puisse communier avec toi. Et Seigneur, quand on arrive en des moments à la croisée de chemin, on veut te prier, Seigneur, que lorsqu'on te recherche, qu'on cherche ta face de façon intensive, tu puisses donner ta paix et ta direction à tes enfants. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.